Après avoir étudié la faculté nutritive au chapitre 4 du livre 2, Aristote, dans les chapitres 5 à 12, va traiter de la faculté sensitive, de la sensation, des sens en particulier et de la puissance sensitive en général. Pour comprendre l'importance de cette étude, il suffit de considérer que c'est seulement à partir de la faculté sensitive du second degré de vie que l'on parle de connaissance. En effet, au niveau de la vie végétative, les opérations de respiration, nutrition, procréation ne sont pas des actes de connaissance. Nous pouvons en saisir le conditionnement, les effets, mais ce qu'elles sont profondément nous échappe. Certes, nous pouvons, dans l'analyse philosophique, découvrir les causes de la vie végétative, mais ces opérations demeurent très obscures et souterraines, de façon toute particulière quant à leur réalisation ou exercice. Le vivant au niveau de la vie végétative n'a pas de pouvoir sur la finalité ni sur la détermination de ses opérations, c'est-à-dire qu'il est déterminé. Mais on peut avoir une conscience plus profonde de nos sensations grâce à l'intervention de notre attention volontaire. C'est une intervention de la vie de l'esprit qui assume l'activité vitale de la connaissance sensible et peut la vivre comme de l'intérieur. La connaissance sensible conditionne toute notre connaissance, elle est aussi le point de départ de la connaissance analogique, puisque j'ai diverses manières de sentir une même réalité, et surtout, elle est liée intimement au jugement d'existence. L'étude de la vie sensible et de la connaissance sensible est donc capitale pour une philosophie réaliste, car notre intelligence connaît la réalité à travers les sensations. C'est pourquoi Aristote, dans ce traité, insistera sur l'expérience par des exemples et réfutera des positions erronées, celles des idéalistes et celles des matérialistes, et si ce n'est dans ce traité, en renvoyant au traité de la génération et de la corruption ou à celui de la sensation. N'oublions pas, bien évidemment, qu'il est face à Platon qui met le primat des formes idéales, tandis qu'Aristote va montrer que l'intelligence est déterminée et mesurée par la réalité. Dans le chapitre 5, Aristote va étudier la sensation, dans le chapitre 6, les sensibles, dans les chapitres 7 à 11, chaque sens en particulier, et dans le chapitre 12, le sens en général. L'objet de ce traité, c'est simplement les chapitres 5, 6, 12. Donc on passera assez vite sur le 7 à 11. Chapitre 5. Aristote commence son étude de la sensation en reprenant ce qu'il en dit au chapitre 4 de ce livre, 415b, ligne 24. La sensation est alloiosis tis, une espèce d'altération. Aristote traite de l'altération au chapitre 4 du livre Alpha du Dégénérationné, où il la distingue de la génération. Je cite, « Il y a altération quand, le sujet restant identique et perceptible, un corps ou un être change dans ses affections, que celles-ci soient contraires ou intermédiaires. » 319b, ligne 10 à 12. Tandis que dans la génération et la corruption, rien ne subsiste du sujet. 320a, lignes 1 et 2. Cependant, Aristote dit une espèce d'altération, car il reprécisera ce point à la fin de ce chapitre, après avoir distingué altération et passion, notamment dans l'exemple de la connaissance intellectuelle. Aristote ensuite regarde la position de certains anciens selon laquelle le semblable pâtit sous l'influence du semblable et il renvoie à son étude du Dégénérationné, livre Alpha, chapitre 7. Que je vais vous en citer une partie. Pour certains, le semblable ne peut subir aucune action du semblable parce que l'un n'a pas plus d'aptitude pour l'action ou la passion que l'autre. Pour Démocrite, l'identique et le semblable sont l'agent et le patient. Pour Aristote, les uns et les autres ont raison partiellement en tant qu'ils n'étudient pas la totalité du sujet. Dans le premier sens, si un corps pouvait être affecté par un corps semblable, il pourrait être affecté aussi par lui-même. Il n'y aurait plus rien qui fût indestructible ou immobile. Dans le deuxième sens, il donne l'exemple de choses dissemblables qui ne peuvent interagir, par exemple la blancheur et la ligne. On peut renvoyer aussi aux commentaires qu'en fait saint Thomas au numéro 117, pardon, page 308 dans la traduction de Thierry. Au sujet du premier fait, considérons que tous ceux qui, comme Empédocle, ont soutenu que le semblable est connu par le semblable, ont prétendu que le sens est toujours en acte de connaître les sensibles. Pour que l'âme connaisse tous les sensibles, ces philosophes ont érigé en principe que l'âme sensitive à certains égards est composée de tous les sensibles, en tant que selon ces philosophes, les sensibles sont constitués eux-mêmes d'un mélange de tous les éléments des sensibles. Deux conséquences découlaient de cette doctrine. La première, c'est que le sens est constitué par les choses sensibles en acte elles-mêmes. Et saint Thomas montre que c'est faux. Ils sont, parce que même, je passe un petit peu, mais si les sensibles en acte sont dans le sens, à raison de ce que le sens est composé de sensibles en acte, il s'ensuit que le sens peut sentir sans les sensibles extérieurs, ce qui est manifestement faux. Et ce que va dire justement Aristote dans le chapitre 5. Il est intéressant de voir combien l'étude du vivant est proche de l'étude de la nature, dont elle est une partie pour Aristote. Cela se comprend car le vivant aussi a un mouvement. Les deux grands axes de distinction seront que le vivant a un principe immanent de son mouvement, il se meut et il a une immanence, une intériorité. Nous reprendrons ce problème du mouvement dans les paragraphes suivants, aux lignes 14 et 17 du paragraphe 417a. Puis Aristote va regarder une difficulté provenant de théories anciennes, dont celle d'Empédocle. Qu'Aristote démentira à plusieurs reprises dans le De Sensu, notamment à propos de la vue, De Sensu chapitre 2, 437b, ligne 14 et suivante. Voilà la difficulté. Pourquoi ne se produit-il pas de sensation des organes sensoriels eux-mêmes alors qu'ils ont en eux les quatre éléments? Et pourquoi ne provoque-t-il pas de sensation sans les objets extérieurs? Ce que je viens de vous lire, dit par saint Thomas. L'expérience montre que je n'ai de sensation que des réalités extérieures et non pas, par exemple, des organes internes dont je n'ai pas de jugement d'existence. De là, Aristote déduit avec évidence, d'Elon, que le sens n'est pas en acte, mais en puissance, et qu'il n'est actué que par la réalité extérieure. Si le sens était en acte, j'aurais aussi la sensation de mes organes sensibles, car ils ont aussi en eux les éléments. On peut peut-être déjà tirer de cela que ce n'est pas l'aspect matériel qui va déterminer, car les organes, eux aussi, sont matériels. Puis Aristote va être amené à préciser une distinction qu'on fait dans le langage courant concernant le mot « sentir ». On l'utilise aussi bien pour dire qu'on est capable de sentir que pour le sentir en acte. Il en va de même pour l'opération et pour l'objet sensible. Petite précision des mots. Le sentir, c'est au aistanestai, la sensation est aesthesis, qui veut dire aussi le sens. Et le sensible, c'est au aesthéton. Puisque la sensation est un mouvement, une certaine altération, comme il a été dit plus haut, car l'altération est une espèce de mouvement, comme il est dit au chapitre 14 des catégories, Aristote va étudier la sensation comme mouvement entre la puissance, distinguée juste avant à trois niveaux, capable de sentir la sensation en puissance et le sensible en puissance, et l'acte. Le mouvement est étudié de deux manières dans la physique. Regardé du côté du mobile, il est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Le mouvement, en tant qu'il existe dans le mobile, est passion. Regardé du côté du moteur, il est l'acte du moteur dans le mobile, et en tant que tel, il est action ou actuation. C'est ce qui permet à Aristote de dire que passion, mouvement et actuation sont la même chose. Il dit à la ligne 15. Or, toutes choses pâtissent et sont mues sous l'influence de l'agent, en tant qu'il est en acte, ce qu'elles sont en puissance. Aristote, par là, veut montrer qu'il y a nécessairement une similitude entre le sens et le sensible qui l'actue, mais que ce sont deux réalités qu'il faut distinguer. Reprenant son étude de l'action et de la passion au chapitre 7, livre A du Dégénérationné, je cite: mais puisque la passion et l'action sont la propriété de tous les objets qui sont contraires ou qui accusent une opposition, nécessairement l'agent et le patient doivent être semblables et identiques par le genre, mais dissemblables et contraires par l'espèce, car les contraires sont tous dans le même genre. 323b, ligne 29, à 324a, ligne 7. En dégénérationné. Et aussi, l'agent s'assimile ce sur quoi il agit, c'est-à-dire le rend semblable. To poietikon, homoion, eoto, to pascon. Puisque l'agent et le patient sont des contraires et que la génération est un passage contraire. Ce qui subit une action se change ainsi nécessairement en ce qui exerce cette action, car c'est de cette manière qu'il y aura une génération orientée vers le contraire. 324a, ligne 10 à 13. Nous pouvons donc dire que le sens actué par le sensible va devenir, dans une similitude intentionnelle, le sensible. Et de dissemblable, il va devenir semblable. Ce qu'Aristote dit dans la ligne 20, 18 à 20. Après avoir montré ce qui est en puissance dans la sensation et ce qui est en acte, il faut préciser cette distinction et le passage de l'un à l'autre. Pour ce faire, Aristote va prendre l'exemple de la connaissance intellectuelle. Il a commencé en faisant une analogie avec le mouvement physique, parce que le vivant s'enracine dans le physique, qui est comme une disposition relativement à ce qui spécifie le vivant. Il va prendre maintenant une analogie avec ce qui est plus intelligible, la connaissance intellectuelle, éclairant l'imparfait par le parfait, en tant que la sensation permet la connaissance sensible, qui est comme un élément de la connaissance intellectuelle. Dans la connaissance intellectuelle, on peut distinguer comme trois niveaux. C'est ce que je vous ai mis sur le tableau pour que ce soit plus clair. L'homme qui est savant en puissance entend que son genre et sa matière sont tels. C'est le premier niveau. C'est une puissance de connaissance fondamentale première. Second niveau, l'homme qui est savant entend qu'il possède la connaissance de la grammaire sans l'exercer. C'est l'exemple que prend Aristote. Ces deux niveaux sont en puissance, mais pas de la même manière. Saint Thomas, dans son commentaire, les appelle respectivement puissance première et puissance seconde. Concernant le premier niveau et les analogies avec la matière, voilà ce qu'en dit saint Thomas, leçon 11, numéro 120. Les deux hommes ont deux pouvoirs de savoir qui diffèrent l'un de l'autre, car le premier est l'homme quelconque. Le pouvoir qu'il a est le pouvoir qu'a toute notion générique d'être spécifiée et toute matière d'être informée, et c'est une certaine généralité et une certaine matérialité car il a une puissance ou aptitude à un certain acte. Il a, de par sa nature d'homme ou par soi, l'aptitude à devenir savant ou sachant, et par cette spécification qui le qualifie savant ou sachant, il est catalogué dans la série déterminée ou spécifiée des hommes d'un certain genre, à savoir du genre savant. Le même motif fait qu'il est en puissance, à savoir en puissance d'être informé comme homme par l'adjectif savant. Telle la matière est en puissance d'être qualifiée par la forme. C'est pour reprendre ce que dit Aristote. En effet, le premier l'est en sens que son genre et sa matière sont tels. Le second, en sens qu'il est capable de se livrer à la volonté, à la contemplation, etc. Le troisième niveau, c'est celui qui exerce son habitus. Par exemple, le grammairien sait ce qu'est et les propriétés de la lettre alpha. Mais il faut aussi regarder le passage entre ces divers niveaux. Le passage du premier niveau, de l'homme qui est capable de connaître à l'homme qui a l'habitus de grammaire, se fera par l'enseignement. Pour préciser ces passages, Aristote va préciser ce qu'on entend par passion. La passion désigne soit la corruption, destruction produite par le contraire, ou bien le passage de la puissance à l'acte, c'est-à-dire du semblable, en puissance au semblable en acte. Dans ce cas présent, il n'y a alors pas acquisition d'une nouvelle qualité, mais actuation. Ce n'est donc pas une altération. Le passage du deuxième au troisième niveau n'est pas une altération. C'est ainsi que se fait le passage du second au troisième niveau, de celui qui a l'habitus à celui qui l'exerce, comme par exemple le grammairien ou l'architecte, ce que la scolastique appelle acte second. Quant au passage de celui qui peut connaître à celui qui a l'habitus, c'est une altération en tant qu'il y a acquisition d'une nouvelle qualité. L'altération est en effet un changement qualitatif, confère dégénérationné chapitre 3, 314b ligne 25 à 315a ligne 3. Et c'est une altération dite positive. Aristote, à partir de la ligne 16 du paragraphe 417b dans ce chapitre, va appliquer par analogie ce qu'il a dit de la connaissance intellectuelle à la connaissance sensible. Saint Thomas montre que dans la leçon 12e, au numéro 121 de son commentaire, que de même que pour l'intellection, il y a deux sens du mot acte, acte premier, acte second, et deux sens du mot puissance, de même pour la sensation, on trouve ces quatre significations. Le premier niveau, ce serait ce qui a la puissance d'avoir la faculté de sentir, qui est un sentant potentiel. Celui qui a la faculté de sentir, mais ne l'exerce pas, qui est un sentant actuel, comme il y a un savant actuel, le grammairien. C'est l'acte de génération qui réalise ce passage de ce premier niveau à ce deuxième niveau, analogue à l'enseignement. Je vais marquer ça en tableau. La sensation en acte est analogue à la contemplation actuelle de la science, comme le dit Aristote à la ligne 19. Cependant, elles sont différentes quant à leur objet. La sensation est déterminée par le sensible qui est extérieur, singulier, existant dans la réalité et lié à la matière, tandis que l'intelligible est universel car immatériel. Aristote précisera ça dans le livre 3 à propos du nous. De là vient qu'il n'y a pas de sensation sans objet, sans réalité extérieure, tandis qu'on peut se livrer à l'intellection quand on le veut, normalement, du fait qu'on porte en soi les intelligibles. Notons au passage qu'il serait intéressant et capital pour une philosophie réaliste d'étudier les liens entre ces deux connaissances, vu que l'universel s'enracine dans la réalité concrète, c'est aussi tout le problème de l'abstraction. Aristote va conclure cette étude sur la sensation en reprenant à partir d'exemples concrets les distinctions faites au sujet de la puissance. Le sens est en puissance par rapport au sensible, comme l'adulte par rapport au port des armes. J'ai mis ici soldat. C'est une passion exprimée par l'acte second dans les autres exemples, comme celui qui exerce un habitus. L'enfant, lui, est en puissance de porter les armes, mais de manière beaucoup plus éloignée, ce serait comme une altération. Le sens n'a donc pas les sensibles en lui, comme le soutenaient certains anciens, Empédocle, entre autres, mais il est déterminé par les sensibles extérieurs, qui, en tant qu'extérieurs, lui sont dissemblables, mais en tant qu'il l'actue, le rendent semblable. Chapitre 6. Dans une connaissance réaliste qui part de l'expérience, je ne peux connaître la sensation philosophiquement qu'à partir des expériences de chaque sensation liées à chaque sens. Or, puisque la sensation est déterminée par le sensible, il faut étudier le sensible car toute opération est spécifiée par son objet. Il est intéressant de noter ici, où elle apparaît plus clairement, la démarche d'Aristote. Au chapitre 5, il étudie la sensation à partir d'autres connaissances, c'est-à-dire son étude sur la nature, la physique, en ramenant la sensation au mouvement, et à partir de la connaissance intellectuelle, fin de la connaissance sensible et plus intelligible. Dans ce chapitre, Aristote va étudier les sensibles comme objets spécifiant les opérations que sont les sensations, qu'il étudiera chacune en particulier et donc chaque sens, dans les chapitres 7 à 11 inclus, et au chapitre 12, il étudiera la puissance sensitive, le sens en général, qu'on pose comme dans une induction à partir des diverses opérations particulières. Aristote commence par distinguer trois acceptions du mot sensible, dont deux sont senties par soi, katota, et une par accident, katasumbebekos. Dans une réflexion critique, il faudrait expliciter ce lien de nécessité entre les deux premiers sensibles et le sens, lien qui semble assez évident entre chaque sens et son sensible propre, mais moins concernant le sensible commun. Le sensible propre est celui qui ne peut pas être senti par un autre sens que celui qui lui est spécialement affecté, et au sujet duquel il n'y a pas d'erreur possible, ce que dit Aristote dans le chapitre 6. Par exemple, la vue a pour sensible propre la couleur, l'ouïe, le son. 418a, ligne 1 à 13. Il n'y a pas d'erreur possible car il n'y a pas deux solutions. Le sensible propre est ce qui ne peut être saisi que par tel sens. Cela part de l'expérience, dans un contact direct par l'organe et dans un jugement d'existence. Il y a une abstraction sensible, mais le sensible tel qu'il est dans la réalité et le sensible tel qu'il est dans le sens sont la même réalité sous deux manières d'exister distinctes, réelles et intentionnelles, qui ne changent pas la détermination. En métaphysique, ce pourrait être un point de départ pour montrer la nécessité de ne pas s'arrêter à l'étude de la substance. Aristote fait remarquer, sans s'y attarder, que le toucher a plusieurs sensibles propres, mais que là non plus il n'y a pas d'erreur possible. L'erreur peut provenir de l'intelligence jugeant de la nature de l'objet coloré, le tis, et du lieu où il se trouve, le pouf. Puis Aristote énumère les cinq sensibles communs qu'on découvre dans l'expérience, appelés ainsi parce qu'ils sont communs au sens, le mouvement, le repos, le nombre, la figure et la grandeur. Ce sont aussi des sensibles percés. Cependant, comme le note Aristote dans le De Sensu et saint Thomas dans son commentaire, ces cinq sensibles communs ne sont pas communs aux cinq sens. La figure, par exemple, n'est pas perçue par l'odorat. Enfin, Aristote parle du sensible par accident, qui est le support matériel du sensible propre. On le sent accidentellement. Par exemple, quand je dis que je vois un mur blanc, je vois le blanc et est lié accidentellement au mur, car tout ce qui est blanc n'est pas lié au mur. Le blanc est aussi lié au papier. Saint Thomas étudie ça dans une réflexion logique sur l'attribution au numéro 125, leçon 13 de son commentaire. Il se demande ce qui saisit le sensible par accident. Voilà ce qu'il dit. Si c'est une notion universelle, c'est l'intellect. Quand je dis de quelqu'un que je le vois vivre, par exemple, vivre est une notion universelle. Si c'est une notion particulière pour l'homme, c'est la cogitative qui présuppose la connaissance des universels et l'applique à un cas particulier. Pour l'animal non raisonnable, c'est l'estimative. Par exemple, l'agneau qui reconnaît la voix de sa mère, il entend le bêlement et en déduit que c'est celle de sa mère. La note dernière d'Aristote dans le chapitre 6 est importante. Je cite, « En outre, des sensibles par soi, ce sont les sensibles propres qui sont sensibles au vrai sens du mot, et c'est par rapport à eux que l'essence de chaque sens se détermine naturellement. » Alors, l'essence ici, c'est « ousia ». Il montre par là que le sens est en puissance et qu'il est déterminé par le sensible et le spécifique. Et la spécificité de chaque sens provient de la spécificité de chaque sensible. C'est capital dans une connaissance réaliste où la réalité est première. Le sensible propre n'est pas matériel, c'est une forme que l'on peut abstraire mais qui n'existe que dans la réalité. La couleur en soi n'existe pas, mais le blanc ou le jaune de ce papier existe. Comme forme, le sensible propre est une qualité, et comme qualité, il admet la contrariété, le semblable et le dissemblable, comme il est dit au chapitre 8 des catégories. Le sensible commun, lui, est lié à la quantité. Il est le support des sensibles propres et comme leur conditionnement. Démocrite et à sa suite, les physiologues et les naturalistes ramènent les sensibles propres aux sensibles communs, car ils n'en considèrent que le support matériel, comme Aristote le dit dans le De Sensu, 442a, ligne 29, à 442b, ligne 25. Je vais passer très vite sur les chapitres 7 à 11, qui ne sont pas immédiatement le sujet de l'exposé. Dans les chapitres 7 à 11, Aristote va étudier chaque sens en particulier, spécifié par chaque sensible propre. Chapitre 7, la vue. Chapitre 8, l'ouïe. Chapitre 9, l'odorat. Chapitre 10, le goût. Chapitre 11, le toucher. Que peut-on retenir de ces études? Sans doute, depuis Aristote, la sensation comme opération vitale n'a pas changé. Elle est la même et dans sa détermination et dans son exercice. Cependant, avec le progrès des sciences, on ne peut plus en garder l'explicitation quant à l'exercice au pos. Pour Aristote, toute sensation se fait à travers un milieu, le diaphane pour la vue et l'ouïe. Dans le De Sensu, Aristote dit que l'ouïe est le sens le meilleur pour l'intelligence à cause du langage, cause de l'instruction, chapitre 1. Dans le chapitre 9 du De Anima, Aristote dit du toucher qu'à l'inverse de l'odorat, le toucher est le sens le plus développé chez l'homme et qu'il en fait le plus raisonnable. Phronimotaton, c'est souvent traduit le plus intelligent. Ceux qui ont la chair tendre sont bien doués. Euphuel. Par contre, ceux qui ont la chair dure sont... Je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Enfin, c'est des brutes, quoi. Et c'est intéressant aussi que c'est à partir du toucher qu'on va découvrir et induire les quatre éléments. Et en même temps, le toucher est le moins connaissable, le plus proche du monde physique, le moins spécifié. Du point de vue de la connaissance, chaque sens apporte une connaissance plus particulière qui va donner des formes différentes d'intelligence. Une intelligence plus auditive ou une intelligence plus visuelle. Dans l'ordre de la disposition. C'est ainsi qu'on a pu lier chaque sens à une cause. La vue à la cause formelle, l'ouïe à la cause finale, l'odorat à la cause efficiente. Alors là, il faut voir ce que... Vous aviez dit le contraire l'année dernière, je crois. Non? C'est, oui, mais je crois que... Il y a aussi, il me semble qu'il dit l'odorat est cause efficiente parce que quand on sent une odeur, on se demande plutôt d'où elle vient. Le goût, c'est la cause exemplaire et le toucher, la cause matérielle. Chapitre 12. Après avoir étudié chaque sens en particulier, Aristote va faire comme une induction pour définir ce qu'est le sens général. En général, pardon. C'est le premier mot de ce chapitre 12, Catholou. En effet, les cinq expériences irréductibles de sensations qui me font saisir les cinq sensibles propres me font poser les cinq sens. Cependant, ils sont un en tant que chacun est dit être un sens. Qu'est-ce qui fait cette unité ? Par une sorte d'induction, je pose le sens comme puissance sensitive, source comme cause efficiente, vitale, et cause de l'unité de ces cinq sens. Le sens est une puissance de l'âme. Diverses questions surgissent alors. Quel est le rapport entre cette puissance et ce qu'on appelle le sens commun ? Qui fait l'unité au niveau sensible des sens, ce qui sera étudié dans le prochain séminaire. Pourquoi cette puissance se diversifie-t-elle en cinq manières d'exister, cinq poses que sont les cinq sens? Je ne peux pas répondre. Des chapitres précédents, Aristote va dégager que le sens est ce qui reçoit les formes sensibles sans la matière, et il prend l'exemple du cachet dans la cire. La cire prend l'empreinte du seau d'airain sans recevoir la matière d'airain. C'est analogue, sauf que dans la sensation, il n'y a pas de contact matériel. Cependant, si c'est effectivement la forme de la réalité, morphée, qui détermine le sens, où la forme est alors présente dans le sens de manière intentionnelle, comme Eidos, il existe nécessairement un certain contact physique pour modifier l'organe. Aristote a beaucoup de mal à dire comment se fait la sensation, comment se réalise la détermination de l'organe, qui, en tant que physique, ne peut être modifié par une forme. Aristote, à propos de la vue, dira que le sensible actue le diaphane, le milieu qui, lui, actue l'organe. Il faut bien distinguer ces deux aspects, la détermination du sens par la forme sensible et le comment de la sensation, l'exercice lié à l'organe et au support physique des sensibles. Cependant, il est évident que ce n'est pas la réalité en tant que telle qui spécifie la sensation, puisque je n'ai pas nécessairement un contact physique direct avec elle. C'est ainsi que je peux voir un objet qui est éloigné de moi. Saint Thomas, pour expliquer que la sensation ne se fait que par la forme, fait cette distinction dans la leçon 24e de son commentaire au numéro 162. Si la disposition matérielle du patient à recevoir la forme de l'agent est semblable à celle de l'agent, on dira qu'il y a ressemblance de matière et de forme. Exemple, l'air et le feu. Si elle n'est pas la même, on dira que la forme est reçue sans la matière. C'est le cas ici où le sens est immatériel, mais le sensible est une réalité matérielle. Cependant, le sens n'est pas une faculté spirituelle comme le nous. Il est lié à l'organe qui est cause matérielle de la sensation. Ce qu'Aristote montre en disant le premier s'entend, c'est-à-dire ce à quoi on doit avant tout attribuer la faculté de sentir, c'est l'endroit du corps où siège cette faculté, c'est-à-dire c'est la partie du corps qui est capable de recevoir les formes sans la matière. C'est un premier génétique en sens que je découvre l'organe avant de poser les puissances dont je n'ai pas l'expérience. C'est pourquoi Aristote précise que la puissance et l'organe sont numériquement la même chose, mais leur être est différent. Ligne 25. Car le sentant est une chose étendue, Mais la quiddité du sensitif et la sensibilité ne sont pas de l'étendue, mais bien une forme et une faculté de celui-ci. Ça, c'est la traduction de Rodier. On peut essayer de reprendre la traduction, car le sujet s'entend, to aistano menon, est une chose étendue, mais l'être à ce qui concrètement est capable de sentir, to aesthetico einai, et le sens ne sont pas de l'étendue, mais un logostis et une puissance de celui-ci. C'est-à-dire que le sujet sentant n'est pas simplement une réalité physique, mais un être vivant qui a une âme, dont le sens est une puissance. L'âme est forme du corps, et l'organe n'est que l'aspect matériel du sens. C'est pourquoi Aristote dit, aux lignes 21 à 24, que le sens relatif à chaque sensible pâtit sous l'influence de ce qui possède la couleur, la saveur ou le son, non pas en tant que chacun de ces objets est dit être telle chose, mais en tant qu'il est dit qu'il est telle réalité déterminée, toyon dit, et quant à sa forme, kata ton logon. Alors, il faut voir aussi la traduction de kata ton logon. Ainsi, le sens ne pâtit pas de la réalité en tant que telle, c'est-à-dire du support matériel du sensible, qui est le sensible par accident, mais en tant qu'il a telle forme morphée. Le kata ton logon fait référence à l'intelligibilité. Peut-être Aristote veut-il dire en tant que la réalité sera source d'une nouvelle connaissance à travers la sensation. Comme nous l'avons dit précédemment, le comment de cette sensation est difficile à préciser. C'est plus le domaine de la science que de la philosophie qui, elle, cherche les déterminations, les causes. La science pourra préciser à propos de la vue que l'œil est affecté par le support matériel de la lumière, les photons, et on pourra expliquer la vision des couleurs par des différences de fréquence dans ce qui affecte l'œil. Mais elle ne dira pas les causes de la sensation. Puisque l'organe des sens, le sensorium, est physique, il peut être détruit par une sensation trop forte. Saint Thomas précise au numéro 164 de son commentaire qu'il faut dans les organes sentants, pour qu'ils soient sentants, une certaine proportion d'éléments ou moyenne arithmétique déterminée et fixe entre des extrêmes opposites. Il faut que les extrêmes y soient à concurrence d'un quantum qui ne peut excéder une telle limite fatale, en deçà et au-delà de laquelle le pouvoir de sentir devient impossible à exercer. L'organe, en tant qu'informé par l'âme, a une structure propre, une nature-forme, qui peut être détruite par une sensation trop forte, comme l'harmonie des sons est détruite si les cordes d'un instrument sont frappées trop fortement. Le rapport des fréquences est détruit, et ainsi ça provoque une disharmonie. C'est pourquoi aussi la sensation est limitée à cause de l'organe. En effet, je peux avoir une plume dans la main et le savoir non par le toucher, mais par la vision. De même, la vision est limitée dans la grandeur et la taille des objets qu'elle peut voir. Quelque chose de très petit qui peut exister, je peux très bien ne pas le voir. L'organe est sensible aux variations entre deux extrêmes. C'est pourquoi les plantes qui n'ont pas d'organes ne peuvent sentir, et parce qu'elles n'ont pas la puissance sensitive. Aristote ici va être amené à distinguer ce qui est proprement la sensation, qui nécessite le sens comme puissance vitale, cause efficiente, et l'organe comme cause matérielle de l'altération physique. En effet, on peut observer que les plantes subissent des modifications par la chaleur, le soleil, les plantes photosensibles, le froid, etc. Les plantes pâtissent en recevant la forme et la matière. Ligne 23, 424b. Pascaine metates ules. Les plantes réagissent aux altérations physiques par la chaleur ou l'énergie qui provoquent des changements physiques ou chimiques qui ne sont pas proprement des sensations. C'est ainsi qu'Aristote va réaffirmer dans le paragraphe suivant que rien de ce qui n'a pas le sens peut pâtir des sensibles en tant que sensibles. C'est ainsi que le tonnerre déchire le bois, non en tant que son, mais c'est l'énergie de la foudre qui déchire le bois. Il y a cependant une difficulté concernant le toucher et la saveur, qui est une sorte de toucher, enfin le goût, qui agit sur tous les corps sensibles ou insensibles. C'est parce que le toucher se fait toujours par un contact physique et qu'il est le sens le plus lié à la matière. De même, l'odeur agit sur des corps insensibles, tels l'air, mais ce n'est pas une sensation. L'air pâtit sous l'odeur comme dans une altération physique. Il faut donc bien distinguer ce qui spécifie le sens, la cause formelle qui est le sensible propre, qui est une forme, et le conditionnement physique de la sensation. Conditionnement du côté de l'objet, le sensible est comme porté par un support physique, et le sens est conditionné par l'organe, qui est la cause matérielle de la sensation. Cette distinction se fait dans l'analyse, mais dans l'expérience, au niveau du comment de la sensation, c'est très difficile à préciser. On peut se demander ainsi quelle est la finalité de la sensation. La vie sensible n'a pas de finalité propre, mais l'expérience montre que je sens pour connaître, pour le plaisir, ou pour mener ma vie, me diriger, me nourrir, etc. Donc elle est finalisée par la vie intellectuelle ou la vie végétative. Un peu long.
Pourquoi est-ce que les plantes ne sont pas?
Parce qu'elles n'ont pas d'organes, parce qu'elles n'ont pas la, donc une âme végétative et non pas une âme sensible.
Il paraît ici.
Ah, il paraît ici.
Que... Oui, mais il paraît, c'est pas.
On a mesuré que.
Oui, mais on mesure. Alors, est-ce que les sciences, justement, est-ce que les sciences sont capables de distinguer une altération physique et une sensation, puisqu'elles n'induisent pas l'âme, mais les puissances?
Au moment d'une graduation, vous voyez, et au fond, on n'arrive pas à montrer la limite. C'est pas étonnant. Parce que par la cause matérielle, il n'y a pas de limite. La limite, c'est la cause formelle qui précise. Or, la cause formelle peut être saisie par la science. Alors, au point de vue scientifique, on aura la tentation de dire, mais oui, il y a une graduation. Comme on dit la graduation du physique au visage.
Du physique au vivant.
Oui, au physique au vivant. C'est normal du côté de la cause finale, du côté de la cause matérielle. Du côté de la cause matérielle, vous avez une continuité. C'est la quantité. Et c'est ça qui est très difficile, parce qu'au fond, on est tous dans ce positivisme scientifique. On n'arrive pas à discerner par rapport à l'homme. C'est par rapport à l'homme que vous discernez. N'oubliez jamais, vous n'avez pas de connaissance philosophique de l'arbre. Vous avez une connaissance analogique de l'arbre, pas directe, donc philosophique, métaphorique. Vous projetez sur l'arbre votre vie végétative. Vous projetez, oui, c'est ça qui est agréable. Vous ne savez pas ce que l'arbre pense.
Est-ce qu'on peut dire la même chose pour l'animal. Le domaine de l'astrologie?
Ah oui, c'est évident. Avec la seule chose, c'est qu'il y a une continuité plus grande. Aristote avait déjà dit ça pour l'astrologie, mais alors lui, parce que comme les astres, c'était la quintessence, l'analogie était plus forte. Mais faites-vous, dans votre philosophie, à vous, est-ce que vous distinguez la sensation de votre vie végétative? Tout est là, c'est la question de l'âme végétative et l'âme sensitive. Et vous projetez ensuite ça dans le règne animal, dans le règne des végétaux. Puis vous vous demandez si les cristaux, est-ce qu'ils se nourrissent? Si on a mis les mêmes comparaisons.
distinguer un vivant végétatif et un vivant sensible au niveau scientifique?
Ben non. Parce que c'est une mesure, vous mesurez. Vous pouvez voir une complexité plus grande. C'est le principe de complexité que Père Teilhard met tellement en lumière. Et il a raison. Il y a une complexité toujours plus grande. Ce qu'Aristote avait déjà vu quand il disait qu'il y avait une complexité toujours plus grande par rapport au mixte. Oui.
Une chose que je n'ai pas compris dans ton introduction quand tu parlais des rapports de la sensation avec la conscience. La sensation est consciente.
Oui, c'est justement un problème délicat, c'est que tu peux voir, par exemple, dans un paysage, tu peux voir une réalité. Il peut y avoir une réalité, mais tu ne la vois. Tu ne la vois que si tu y fais attention. Oui, ça, alors, justement.
La sensation.
Non, non, justement, attends. Alors, c'est là l'influence de la conscience sur la sensation. Il y a la sensation, la conscience, c'est extrinsèque, c'est du coup la connaissance. Oui, c'est tout à fait second. Et c'est extrinsèque à la sensation comme telle.
Autrement dit,
ça va aider ta sensation à être plus. Toi être plus présent dans ta sensation. Et c'est important pour la connaissance.
C'est le vitos.
Oui, c'est ça. Être présent, le vitos, c'est présence et sensation.
Être présent à sa sensation pour que la sensation reprenne toute sa force, étant donné qu'on la télescope si facilement. Et que c'est par la sensation que je suis en contact avec le physique. Nous n'avons pas d'expérience de la sensation à l'état pur. C'est ce qu'il y a. Tiens,
oui, mais tu n'as pas. Oui, au niveau de la connaissance, tu ne connais pas tes opérations, ta digestion, par exemple, tu n'as pas une connaissance
interne.
Il n'y a pas de connaissance.
Mais il y a une sensation.
Tu as une sensation de ta digestion? Quand ça ne va pas bien.
Ah. Quand ça va bien, vous en occupez pas beaucoup. C'est souterrain.
Donc il y a que quand c'est négatif ou on.
Comme quand on a mal de temps, que ça passe qu'on a mal de temps. La vie végétative n'est pas une vie de connaissance.
Pour ton imagination, la génération, c'est en tant qu'elle est liée à une vie sensible.
Ah oui, oui, ça c'est évident, c'est comme l'instinct. Philosophiquement, qu'est-ce que c'est que la sensation?
On la détient par les causes, c'est
philosophiquement ce qu'on dit.
La cause formelle de la sensation, c'est le sensible propre, c'est-à-dire la forme de la réalité sentie. La cause matérielle, c'est l'organe, parce que la sensation, c'est par l'organe. La cause finale, c'est en général c'est la connaissance intellectuelle, mais ça peut être aussi la vie végétative.
Oui.
Tu te sers peut-être de tes sensations pour te déplacer. Et puis.
Cause efficiente.
Cause efficiente, c'est la puissance vitale, la puissance de l'âme.
Et est-il une causalité exemplaire?
Je crois pas. Il n'y a pas de causalité de la sensation.
Sauf quand vous vous servez des sensations au point de vue artistique.
Est-ce que c'est encore de l'art aussi?
Ah, l'art assume la sensation et lui donne une espèce de coloration qu'il n'aurait pas autrement. Je crois, oui, c'est extrinsèque à la vie sensible. C'est la manière dont la connaissance, l'intelligence assume.
C'est pas une cause propre.
C'est pas une cause propre.
Est-ce que c'est une opération mentale?
Bah, c'est modéré, c'est que face à la réalité, c'est... tu la sens.
Ah oui, tu la sens, mais tu ne suis pas tout. Alors qu'est-ce que ça représente exactement les douleurs ? C'est pas possible.
Le c'est modéré dans la vie sensitive. Ouais. Mais c'est la sensation elle-même.
D'accord, mais puisqu'on partit sous l'aspect.
Oui, mais tu ne sens pas par un contact, c'est la différence avec un mouvement physique. Il n'y a pas de mouvement physique.
À l'intérieur du pascaïne, il y a la réaction de la sensation qui l'active, oui. Forcément.
Ça, mais c'est pas une sensation, c'est pas un mouvement physique.
Dans quelle mesure est-ce qu'on peut garder le milieu dont parle Aristote, de la sensation actuellement, le diaphragme pour le mouvement ?
C'est très difficile, justement. C'est toute cette question que je dis au niveau du comment la sensation, c'est extrêmement délicat. Mais on ne peut pas nier, si tu veux, que la lumière, tu ne peux pas nier, elle influence ton œil. Et tu vois que ta pupille se dilate. Donc il y a un certain contact matériel.
Quand Aristote parle des verres lumineux, l'ennemi, c'est phosphorescent.
Oui, c'est les deux objets, justement. Deux objets de la vue, c'est la lumière et ce qui se voit la nuit. Et les verres luisants, les verres luisants, c'est ce que dit Aristote.
Ça l'a beaucoup intéressé, les verres luisants. Et on comprend le choc qu'il faut. Et alors, comment expliqueriez-vous un savant d'aujourd'hui ?
Comment j'ai expliqué ?
Oui, c'est cette question du diaphragme par rapport à la vision, puisqu'au fond c'est là où le plus intéressant.
Je constate que la vision se fait par l'œil.
Ouais.
Mais si je dis en philosophie que c'est le sens est propre comme forme qui actue ma sensation, une forme ne peut pas actuer un organe physique. Il y a nécessairement un élément physique qui intervient pour actuer aussi l'œil. Mais je lui dirais que lui ne voit que cet aspect physique. Ce que je disais à propos
de mesurable,
les photons et tout ça, on va dire l'aspect physique dans la lumière qui parce que ça peut se mesurer, qui va agir sur l'œil, qui est l'aspect physique. Et tout l'aspect de la détermination, la science ne regarde pas.
Tu disais pour le sensible propre, il n'y a pas de cause d'erreur, parce qu'il n'y a qu'un sensible propre par rapport au sens.
Oui, il n'y a pas. Quand tu dis je vois telle couleur, tu peux pas te tromper, parce que tu as un contact immédiat. C'est l'œil qui voit la couleur. Du moment que l'œil voit quelque chose, c'est nécessairement un sensible propre.
Oui, enfin, mais quand il y a un contact immédiat. Que l'œil ne peut pas se tromper à ce niveau-là.
Non, il ne peut pas se tromper dans le vis-à-vis du sensible propre comme sensible propre.
Mais c'est uniquement à cause de l'immédiateté de la sensation.
Et je crois que philosophiquement, ça se défendra par le jugement d'existence. J'ai un contact direct.
Est-ce que c'est pas plutôt l'appréhension qui est donnée ?
Non. C'est le jugement d'existence, je crois.
Du coup, l'appréhension, c'est pas une opération, c'est pas une expérience externe. Est-ce que la sensation est une expérience externe que je défends par le jugement d'existence ? Qui fait adhérer directement à la réalité.
Est-ce que la sensation, c'est parce qu'elle est préalable à un jugement d'existence ?
Oui, le jugement d'existence, c'est fait dans la sensation.
Au-delà.
Enfin, c'est
au-delà. Donc, existe.
Oui, mais à travers la
sensation. À travers. En se servant de la sensation.
Mais est-ce qu'il ne se sert pas de la sensation de même que tout jugement présuppose une appréhension ?
Ah oui, l'analogie que vous feriez. Comme le jugement présuppose une appréhension. De même. Le jugement d'existence présuppose la sensation.
Moi, je ne crois pas, parce que l'appréhension est un élément du jugement, parce que la sensation...
C'est immanent, c'est extrinsèque.
C'est une disposition au jugement. Mais il se fait à travers... Parce que quand tu fais un jugement d'existence, quand il y a un jugement d'existence, quand on touche un principe, là, il n'y a plus la sensation. Non ?
Oui, puis le jugement d'existence dépasse la sensation. La sensation peut se tromper, et le jugement d'existence reste vrai. Tandis qu'il ne serait pas faisable pour l'appréhension.
Vous pouvez expliquer ?
Oui, oui. Il peut y avoir une... C'est la question de Descartes. Hein. Comment répondre à Descartes ? Parce qu'au fond, tout Descartes repose là-dessus. Ce point de vue-là, c'est quand même très important, puisque à partir de Descartes, c'était le déraillement. Alors, c'est très curieux que tout déraillement philosophique repose sur les rapports des sensibles propres et des sensibles communs, que saint Thomas a encore maintenu. C'est le dernier. D'Aristote à Thomas d'Aquin. Et à partir de Thomas d'Aquin, c'est Henri de Gand, Ton Scott, ils ont tous oublié cette distinction d'Aristote. Ils ont mis les sensibles propres, communs, avant. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mesurables. Alors que, donc, ils avaient une certitude plus grande, comme connaissance. Alors qu'Aristote recherche le point de vue de la vérité. Et les sensibles propres, seuls, maintiennent la vérité. Parce que, d'une certaine manière, on ne peut pas se tromper dans les sensibles propres. Je peux avoir un organe fatigué. Si j'ai un organe fatigué, je ne verrai plus avec la même force. Mais c'est autre chose, c'est à cause de l'organe, c'est donc de l'ordre de la disposition. Mais le sensible propre, je le vois tout le temps. Expliquer comment ceux qui voient les feux rouges verts devant le gendarme.
Et est-ce, cette chose de la couleur, comment se fait-il que quand il n'y a pas suffisamment de lumière, je vois, mais je ne vois pas la couleur?
Ouais. C'est un fait.
C'est bizarre.
C'est pour ça qu'il dit que la lumière actuée, le milieu. Scientifiquement, l'expliquons. Ça fait partie des conditions qu'il faut pour voir.
Pour voir la couleur.
Oui.
Et la couleur, c'est quoi quand même? Je peux voir les objets, mais je peux les distinguer.
Je peux les toucher, je ne les vois pas. Dans le noir.
Mais quand vous ne voyez pas la couleur, vous voyez l'objet sans voir la couleur.
Ah, on voit la figure.
La figure à l'œil.
On voit la figure. On voit du gris. Et on voit la figure encore. On voit des sensibles communs. Qui restent.
Alors il y a une graduation dans l'œil.
Ah oui, une graduation, c'est sûr. La disposition fait que la graduation. Il y a un devenir. Il y a un devenir du côté. C'est pour ça que je peux mesurer la fatigue d'un organe. Je peux mesurer jusqu'où va votre... Quand vous commencez à entendre moins bien, on vous fait mesurer jusqu'où vous pouvez encore entendre. Et pour la vision, c'est la même chose. Donc il y a du plus et du moins. Parce qu'il y a un certain devenir à cause de l'organe. S'il n'y avait pas l'organe, il n'y aurait pas ça. La puissance vitale ne se fatigue pas et ne s'use pas. C'est l'organe qui se fatigue.
Pour le lousse,
oui.
Est-ce qu'il se fatigue?
Non, non, jamais.
Alors qu'est-ce qui se fatigue?
Ben, c'est votre imagination. C'est votre imagination. Oui, l'imagination. Parce que dès que vous pensez toujours avec une image. Donc il y a toujours un organe. Vous êtes fatigué, tu vois, on sent très bien. Quand vous êtes trop fatigué, que vous l'arrivez à penser, vous déraillez. Écrivez le soir quelque chose et relisez le matin. Vous verrez où auras-tu le déraillement. Ça, c'est pour ça que les vieux auteurs spirituels, directeurs des séminaires, disaient qu'il ne fallait jamais écrire des lettres à des amis, eux, le soir. Parce qu'on risquait d'avoir un débordement affectif beaucoup plus grand que... C'est pas toutes lettres, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut l'ancien. C'est évident. Quand on est fatigué, l'affectivité augmente. C'est pour ça que faire des études intellectuelles corrige le facteur imaginatif et rééquilibre l'affectivité. Pas totalement, mais en partie. Et puis personne ne pose des questions. Oui.
Quelle est la différence entre le lien de la sensation avec l'organe et le lien entre l'intelligence et le cerveau? Et le cerveau.
Ah oui.
Je ne sais pas quel est le lien entre l'intelligence et le cerveau.
Il n'y a pas de lien.
Pas de lien.
Il y a du lien du côté mémoire, imagination, connexion de toutes les sensations. C'est comme ça que vous pouvez localiser quels sont dans le cerveau les lieux de connexion. Mais c'est de l'ordre d'imagination. L'intelligence comme telle n'a pas d'organe. Mais plus l'imagination joue, plus la connexion avec le cerveau peut se faire.
Les mathématiques, pas d'organe.
Qu'est-ce qu'il y a?
Pas d'organe pour les mathématiques.
Non, mais l'intelligence est beaucoup plus liée à l'imagination. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, vous n'avez plus d'intuition mathématique. Vous savez bien, on dit que jusque 40 ans, on a des intuitions mathématiques après sa vie.
Mais qu'est-ce que c'est avant ces intuitions? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie intuition?
Quelque chose.
Quand vous dites ça, est-ce que c'est une vraie intuition?
C'était des constatations que des jeunes mathématiciens avaient des intuitions géniales. Et dès que vous allez à l'école, c'est fichu. Vous dites que, à partir d'un certain âge, les intuitions mathématiques diminuent et on comprend puisque c'est lié à l'imagination. Tandis qu'on dit l'inverse pour les mathématiques, pour la philosophie. La philosophie, plus vous avancez, plus vous êtes intuitif. Plus votre intelligence se développe, il n'y a pas de limitage. Ce que dit Elsaber. Quand je dis limitage, toi qui t'es Fribourg, alors il a le limitage au plan philosophique. Fonctionnaire helvétique.
Si tu veux simplement reprendre ce que tu disais, que la sensation est comme une voie d'accès à tout. Oui, parce que dans la sensation, tu as deux états, si je veux dire, de la forme sensible telle qu'elle est dans la réalité, et la forme sensible telle qu'elle est dans le sens. Alors, par la simple étude de la détermination, il n'y a pas de différence, c'est la même détermination. C'est sur les manières d'exister qu'il y a une différence. C'est comme ça qu'on introduit toute l'étude de l'acte, dans la différence entre la capacité et l'opération, qui, au point de vue de la détermination, sont la même chose, mais il y a une différence réelle.
Pourquoi Aristote commence-t-il par la sensation et non pas par l'intelligence? Par l'intelligere, puisqu'au fond, nous avons conscience immédiate de notre pensée et que nous n'avons pas conscience immédiate de nos sensations. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui serait juste.
Parce que les sensations sont plus immédiates dans l'expérience que l'intelligence.
Sont plus proches, oui. De certaines manières. Et d'autre part, il se sert constamment de l'intelligence pour certaines analogies.
Parce que, oui, c'est parce qu'il étudie, là il étudie la sensation vue sous l'aspect de la connaissance. Et que donc, pour expliciter son étude, il va prendre la connaissance la plus parfaite, qui est la connaissance intellectuelle. Ouais. Parce que c'est le parfait qui explicite.
Imparfait. Est-ce que vous avez remarqué les lieux où, de fait, il faisait appel à l'analogie de l'intelligence et les lieux, au contraire, où il regardait la sensation, premièrement? Mais comme méthode de travail.
Quoi? Pour l'intelligence,
il prend la sensation pour... Oui, pour l'intelligence. Ici, nous sommes dans la sensation.
D'accord, il fait la chose inverse.
Oui, c'est autre chose. Par rapport ici, on va se traiter de la sensation. De temps en temps, il fait appel à l'intelligence.
Il ne parle pas du tout de la sensation, comme je disais tout à l'heure. Mais si on voit un principe physique, la phénoménologie de la mémoire,
Fausse, mais c'est pas la tête, c'est pas la sensation. Mais, vous voyez, il fait appel, il sait, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce traité, de temps en temps, on regarde directement la sensation et il fait appel au physique, hein, la distinction. Et puis à certains moments, il fait appel à l'intelligence.
Il fait appel à l'intelligence.
Autrement dit, la sensation constamment est traitée d'une part en opposition vis-à-vis du physique, d'autre part en faisant appel à l'intelligence. À quel moment fait-il appel au physique? Alors à ce moment-là, il regarde la connaissance sensible pour elle-même. Il y a d'autres moments, il fait appel à l'intelligence. Oui, à l'intelligence.
Que c'est pas quand il veut justement ce que j'ai dit, ce qu'il va distinguer toute l'étude de la connaissance sensible de la connaissance de l'étude du physique, c'est à la fois que l'intelligence a son sémo verré, alors il y a l'aspect du mouvement, c'est pour ça qu'il va étudier par rapport au physique, et quand il veut étudier l'immanence et le fait qu'il y a un sémo verré, il va regarder là où c'est le sémo verré plus explicite qui est dans l'intelligence.
Oui.
Et là où il y a l'immanence qui est l'intelligence qui est
l'immanence parfaite, oui. Parce que c'est net, hein. Quand vous voyez ça, vous voyez certains endroits où on comprend très bien que c'est le point de vue de l'altération et le souci de montrer le dépassement de l'altération. Puis à d'autres moments, il fait appel aux analogies de l'intelligence pour préciser.
Il appelle aussi l'énergie de l'intelligence quand il veut montrer que justement la sensation est une passion et non une altération.
Oui.
C'est pour
la différence.
Parce que justement, il veut connaître, donc il prend là où la connaissance est la plus difficile.
Et puis,
quand il analyse,
oui.
Qu'il prend le tandis que quand il décrit.
Oui, je crois que c'est juste. Je crois que c'est ça la raison. C'est quand il analyse, il fait appel à l'intelligence. Et quand il décrit, il fait appel au physique. C'est très curieux. Oui. Parce que ce que vous aviez pris au point de vue de la passion, vous voyez, il avait appel à l'intelligence, au nous. Il a montré les degrés. Puis après, il a fait l'application. Oui, l'application plus ou moins, mais analogique. Quand il regarde Pascal comme tel, l'altération, au bâti, il fait appel au physique. Et donc la cause matérielle, qui est toujours source de la description, il fait beaucoup plus appel, tandis que la division et la cause formelle, il fait appel beaucoup plus à l'intelligence. Oui.
Qu'est-ce qui spécifie cette connaissance sensible? Est-ce que ce serait parce que...
Attention, la question est peut-être mal posée, parce que ce qui spécifie la connaissance sensible, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est le sensible.
Ce qui caractérise
la nature de cette connaissance sensible. Je crois que c'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce qui caractérise la nature de cette connaissance sensible? Au niveau connaissance sensible, c'est un mode de connaissance. Qu'est-ce qui caractériserait pour vous ce mode particulier de connaissance qu'est la connaissance sensible?
C'est justement, il y a un papier, c'est la réalité. C'est de la réalité que je vais tirer la connaissance. Je suis complètement dépendant de la réalité. Que d'une certaine manière, je suis moins dépendant dans la connaissance intellectuelle. Parce que, dit saint Thomas, en tant que j'ai une forme intellectuelle dans moi. Donc je peux très bien, par exemple, penser, les yeux fermés, juste comme ça, dans la sensation que je suis complètement dépendant de la réalité que c'est.
C'est
pour ça qu'en effet, il insiste énormément sur le fait que c'est un bâti.
Ça passe qu'à être bâti. Et c'est le bâti, je crois, qui caractérise.
Est-ce que c'est le bâti? On peut dire que c'est le bâti qui caractérise tous les niveaux de connaissance. Est-ce qu'on pourrait...
Dans la diversité de ces bâtis. Caractériser les niveaux, c'est beaucoup plus du côté de l'objet, c'est sûr. C'est l'objet qui caractérise, mais qui est permet de décrire et donc de s'approcher le plus, sûrement le Pascal, causalité matérielle. La causalité matérielle avec la disposition permet toujours de décrire. C'est pour ça que vous approchez entièrement par le point de vue de la causalité matérielle. Vous décrivez. Tandis que l'aspect spécifique, la cause formelle, vous ne décrivez plus. Oui, les sensibles propres, les sensibles communs, vous ne décrivez plus. Il me semble. Oui. Je ne sais pas si je réponds bien à ce que vous pensez, ce que vous posez comme question.
Est-ce que ce qui caractérise la sensation, plus précisément que le fait de bâtir une manière générale, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait de recevoir une forme sans la matière? Ou alors est-ce que le fait de recevoir une forme sans la matière, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'action d'intelligence?
Recevoir une forme sans la matière, c'est propre à toute connaissance. Alors on se demande, vous voyez, c'est propre à toute connaissance. Toute connaissance reçoit une forme sans la matière. Oui. Donc ça ne caractérise pas ce mode particulier de la connaissance sensible. C'est pour ça que je crois que ce qui caractérise le mode particulier de cette connaissance sensible, c'est bien le fait de bâtir.
Bâtir est purement physique.
Quand même. Bâtir, pas non. Avec le lien, la sensation ne peut pas exister sans un bâtir. Et donc elle est liée essentiellement à ce bâtir physique. Mais elle n'est pas ce bâtir physique. Bien, je crois que c'est ça qui caractérise la sensation. Oui, comme mode particulier de connaissance. Parce que recevoir la forme sans la matière, c'est toute connaissance.
Alors, qu'est-ce qui la caractérise si ce n'est pas le bâtir physique?
Non, parce que le bâtir physique n'est pas la sensation. Ce qui la caractérise, c'est de n'exister, c'est de ne pas pouvoir exister sans ce bâtir physique.
Oui. Qu'est-ce que c'est que la sensation si ce n'est pas le bâtir?
Ah, la sensation, c'est une connaissance. Donc, recevoir ce que vous aviez dit, recevoir une forme sans la matière, mais ça c'est propre à toute connaissance, liée à ce bâtir. Et donc, ce qui caractérise cette connaissance, c'est bien le bâtir. Oui. Tandis que recevoir la forme sans la matière, c'est propre à toute connaissance. La sensation reçoit cette forme sans connaissance par un bâtir physique, si vous voulez, ou dans un bâtir physique. Je crois que là, alors, ça vous caractérise exactement ce que c'est que la connaissance sensible.
Oui. Est-ce qu'on peut préciser par rapport à la nutrition, justement, avec les dissemblables et les semblables?
Oui.
Dans la connaissance sensible, on connaît les dissemblables. Alors que dans la connaissance nutritive,
oui, et puis alors surtout, dans la connaissance nutritive, vous n'avez pas une nutrition particulière du pain, des pommes de terre, de la choucroute, de la viande. Venez, c'est peu importe l'aliment, l'aliment ne spécifie pas la nutrition, tandis que l'objet spécifie la connaissance. L'aliment ne spécifie pas. Qu'est-ce qui spécifie ma nutrition? C'est ma puissance végétative. Là, on a une subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale de Kant est vraie au niveau de la nutrition.
Ça qui est très curieux.
Donc il est resté au premier analogue et de l'assimilation du vivant. Parce que c'est vrai que dans la végétation, il y a une subjectivité transcendantale. Vous dominez admirablement les aliments. Et votre manière de digérer les choses est différente de celle du bois, parce que la subjectivité transcendantale du bois n'est pas la même que la vôtre. Et quand vous êtes fatigué, le conditionnement de la subjectivité transcendantale se fait sentir. Et il est limité. C'est comme ça qu'il voit un régime. Le régime provient des dispositions qui augmentent en raison de fatigue. Quand vous n'êtes pas fatigué, vous digérez beaucoup mieux. Du moins, ordinairement, c'est comme ça que ça se passe. Tandis que quand vous êtes très fatigué, vous digérez beaucoup moins. Et vous devez faire attention, dire, ah, tel aliment, Et vous prenez votre petit pendule. Petit...
La sensation est toujours liée à la connaissance.
Ah oui, c'est une connaissance. C'est essentiellement une connaissance.
Il n'y a pas de sensation pure.
Je ne peux pas toucher les choses sans avoir aucune.
Il y a l'animal qui est censé, mais même l'animal n'a pas de sensation pure, puisque c'est encore lié à l'estimative.
Le lien entre la sensation et la connaissance, c'est pas une présence ou...
Entre la...
L'intelligence et la sensation.
Oui, oui. Dans toutes vos sensations, quand vous êtes bien éveillé.
Mais quand je marche, je touche le sol et je n'en ai pas conscience.
Oui, vous n'avez pas conscience, vous ne faites pas aucune attention. Aucune attention. Sauf si vous marchez pieds nus. C'est pour ça que d'avoir pris des souliers diminue le réalisme. Attends, l'article a fait cette culture idiote qui nous fait prendre des souliers et qui par le même nous conduit à l'idéalisme. Donc partez en guerre contre les planteurs de chaussures et si on était pour le vitose jusqu'au bout, on serait une communauté pieds nus. Vous allez jusqu'au bout de ces principes ou quoi? Moi j'invite, il faudrait réaliser ça parce que je suis persuadé que ça joue. On a perdu toute une question de compact. Si il est dit dans l'écriture que la terre est venue au service de la femme. Si vous mettez des souliers, vous perdez le contact avec la terre. Et c'est vrai, quand vous marchez, vous ne pensez pas à vos pieds, sauf si vous avez mal à vos pieds. Vous n'avez plus de contact. Vous avez une semaine. Quel est le contact? Aucun contact avec la... Et vous êtes désolé quand vos souliers sont trous. Il y a un trou que vous en commencez à sentir. Alors que c'est à ce moment-là qu'on recommence à vivre.